France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Et nous voici de retour au sixième jour de la grève liée à la réforme des retraites. Au-delà des débats de fond, bien sûr, on y reviendra d'ailleurs dès demain, on a vu et entendu beaucoup de sujets sur les systèmes B pour aller travailler et on commence à entendre les entreprises grincer. Le télétravail, ça va bien quelques jours, mais ensuite, il faut bien trouver le moyen d'aller jusqu'au bureau. Quand on a un magasin, il faut bien que les propriétaires, les vendeurs, les vendeuses arrivent jusqu'à bon port. Si on a un salon de coiffure, mais personne pour couper les cheveux, c'est quand même un souci, sachant par ailleurs que les clients n'ont pas forcément envie de braver le manque de métro, de bus ou de train pour aller faire des courses. Or, il ne vous a pas échappé qu'on était en période de Noël. Bien. Mais une grève a-t-elle réellement un impact durable sur l'économie? Est-ce qu'on est capable d'évaluer les effets d'une grève si elle dure plus longtemps? On a des exemples sur lesquels s'appuyer. La même période, l'an dernier, n'a pas été facile non plus. Les manifestations de gilets jaunes en ville, les ronds-points bloqués dans les zones rurales. Y a-t-il un effet direct et immédiat? Comment l'économie parvient-elle à absorber le soubresaut d'un ralentissement de l'activité qui est ponctuel? Il y a fort à parier que le gouvernement va communiquer sur les pertes économiques. Il réunit les fédérations demain mercredi. Mais qu'en est-il en réalité? Qu'en percevez-vous? Qu'en pensez-vous? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble ce soir. Je rappelle qu'on ne peut pas prendre vos appels ce soir en raison du mouvement de grève à Radio France. En revanche, nous pouvons lire vos messages à l'antenne. Double effet, le deuxième standardiste au 01 45 24 7000 n'a pas réussi à venir jusqu'à nous. Mais ne vous inquiétez pas, franceinter.fr est là, l'application aussi, et on vous écoute.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
On va commencer avec Fabrice qui nous appelle, qui nous a envoyé un message depuis Grigny. La France n'est pas un pays étranger à la grève, nous dit Fabrice, et on nous rebat les oreilles régulièrement sur les coups portés à l'économie. Mais si certains secteurs sont probablement en baisse d'activité, a-t-on des exemples à travers l'histoire de grèves qui auraient réellement mis en danger l'économie? C'est un argument de politicien, nous dit-il, pour faire rentrer chez eux les manifestants, et moi je reste dans la rue. Voilà ce que nous dit Fabrice, auquel on va répondre tout de suite, et d'autres aussi, grâce à Mathieu Plane qui est là. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE, et avec Alain Griset aussi, président de l'Union des entreprises de proximité. Bonsoir, monsieur
Bonsoir.
Griset. Qu'est-ce qu'on répond à Fabrice, l'un comme l'autre, Mathieu Plane? Est-ce que, oui, alors après on va parler de micro et de macroéconomie probablement, mais est-ce que dans l'histoire, on peut dire, dans l'histoire récente bien sûr, il y a effectivement des mouvements qui ont pu à terme être dommageables à l'économie, ou au fond ça s'absorbe? Tout ça.
Alors le mouvement, on va dire dans les séries statistiques qu'on a, hein, parce que sur les 50-60 dernières années, le mouvement principal où il y a eu vraiment un blocage général du pays, c'est 1968. Voilà. On voit un effet sur le PIB qui est majeur. Donc on a un choc macroéconomique qui se voit, parce que le PIB a baissé de 5%. En un trimestre. Hein,
Sauf qu'autant que je sache, le trimestre suivant, on avait pris 8.
Donc, mais voilà, exactement. Ce qui est assez surprenant, c'est la capacité de rebond derrière. Mm-hmm. C'est-à-dire que, à partir du moment où il n'y a pas des pertes définitives, ce qui peut arriver, hein, parfois, effectivement, il y a une forme de récupération. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui n'a pas été dépensé peut être reporté, ce qui n'a pas été investi, reporté aussi.
Mais est-ce que ça marche dans toutes les périodes?
Non, alors après, il
y
a des pertes définitives aussi qui peuvent exister. Enfin, après, une fois de plus, c'est extrêmement difficile à évaluer. Hein, je vous le dis tout de suite, parce que les économistes essayent de le faire. Il faut toujours réussir à identifier ce qui est dû à des effets propres à une grève. C'est-à-dire qu'on voit les évolutions de l'économie, elles sont multifactorielles, elles dépendent d'évolutions de la fiscalité, du taux de change, du pétrole, de nos partenaires commerciaux. Et donc, il faut bien voir où est-ce que ça peut toucher un secteur en particulier et les effets macroéconomiques qu'il peut y avoir. Il y a une évaluation qui a été faite, hein, on reviendra peut-être dessus, mais en gros sur 95, qui montrait qu'il y a eu 22 jours à peu près de grève, il me semble, et l'INSEE a montré que ça faisait 0,2 points de PIB en moins sur le trimestre, dont une partie a été récupérée après. Donc il y a eu un effet quand même macro, mais il faut arriver quand même sur des durées relativement longue, sachant qu'aujourd'hui, moi, il me semble, effectivement, même s'il peut y avoir des impacts très sectoriels, ou même des commerces peuvent faire faillite avec ces effets répétition, au niveau macroéconomique, effectivement, c'est beaucoup plus absorbé. Et surtout, la question qui se pose, c'est notamment l'organisation du travail autour de ces grèves.
Donc, qui s'améliore au fil des grèves, vous voulez dire?
Par rapport à 1995, il n'y avait pas le télétravail, par exemple. On n'avait pas tout le numérique ou la possibilité de travailler à distance. Il n'y avait pas les RTT non plus.
Bien sûr.
Donc, il y a eu un peu de modification à ça. La problématique, elle devient, si vous, par exemple, il y a des blocages de raffinerie, si la grève devient extrêmement dure, si elle est généralisée et longue.
Si on touche à l'outil de production, exactement, en fait, dans l'idée, Alain Griset, il y a évidemment, il y a micro et macro. Alors, oui, les choses sont évidemment différentes. J'imagine que le coiffeur dont je parlais tout à l'heure, oui, en introduction, ou le vendeur dans un magasin voit les choses un peu différemment, probablement. En tout cas, les commerces de proximité voient les choses peut-être un peu différemment.
Ben, c'est évident que l'impact n'est pas du tout le même. Bon, je pense qu'effectivement, au niveau macro, ça a été vérifié à plusieurs reprises. On peut pas dire qu'il y a des impacts dramatiques, au moins sur le long terme. Par contre, au niveau micro, au niveau des personnes, des hommes et des femmes qui ont quand même mis leur bien dans leur entreprise, il y a des conséquences qui peuvent être absolument dramatiques. Naturellement, ça dépend du positionnement de l'activité, particulièrement dans cette grève-ci sur Paris. On voit bien que nos collègues, en particulier dans l'alimentation, puisque la période aussi de cette grève joue beaucoup. On sait bien que dans la période du 5 décembre au 5 janvier, bon, c'est les fêtes, les commerces alimentaires, c'est une partie importante de leur chiffre d'affaires.
La question que j'allais vous poser, en fait, le rebond qu'il peut y avoir, c'est un rebond différent selon qu'on est au mois de mars ou au mois de décembre.
Il n'y a pas de rebond. Dire, ceux qui ne vont pas consommer à Noël ne vont pas consommer au mois d'avril.
C'était le sens de ma question.
Et donc là, pour là, c'est de la perte sèche. Et il faut bien imaginer que pour cette période de fête, en un mois, c'est 2,5 mois de chiffre d'affaires de l'année. Pour des collègues qui déjà ont subi au début de l'année, de cette année, avec le mouvement des Gilets jaunes, des difficultés. Et donc, on a un risque réel, pour un certain nombre d'entre eux, et peut-être même beaucoup, si le mouvement venait à durer, non pas d'avoir seulement une perte de chiffre d'affaires, mais de devoir arrêter leur activité et de licencier. Et les conséquences, on les mesurera très clairement au premier semestre de l'année 2020.
Mais on a un élément de mesure, effectivement, ce sont les Gilets jaunes l'année dernière, dans une autre mesure, mais il y avait un certain nombre de centres-villes qui étaient bloqués, donc les commerces de proximité, etc. Aujourd'hui, avec le recul un an après, est-ce qu'on peut dire que oui, il y a eu un vrai impact sur le commerce de proximité au moment des manifestations de Gilets jaunes, donc on peut se dire que l'impact sera à peu près similaire, parce qu'on est là aussi dans un, enfin si ça se poursuit, dans un blocage de centre-ville. Est-ce que les Gilets jaunes nous enseignent quelque chose ou pas?
Oui, très clairement, puisque l'impact, il est multiple. D'abord, il y a des collègues qui ont eu de la dégradation dans leur activité.
Alors, c'était
la casse, on va dire, de la dégradation. Et quand il y a de la casse dégradation, même quand on est bien assuré, il y a toujours une perte, la vétusté, qui fait qu'on perd de toute façon quelque chose. Ensuite, il y a la perte d'exploitation. Tous nos collègues ne sont pas toujours assurés sur la perte d'exploitation. Et donc là aussi, il y a une perte de chiffre d'affaires qui se récupère pas. Alors, nous avons, à l'UDP, travaillé avec le gouvernement à l'époque pour avoir des étalements de cotisations sociales. Mais étalement, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même payer. Et ça joue sur l'activité. Et cette partie-là, en général, elle n'est jamais récupérée. En tout cas, dans ces activités, en particulier des métiers alimentaires, là, on voit bien, j'ai eu hier des contacts avec des hôteliers, des restaurateurs à Paris, bah, c'est évident qu'un repas qui n'est pas consommé, les gens vont manger deux fois dans trois semaines ou dans un mois. Donc, pour nos activités, il est évident qu'il y a une perte sèche et qui, en général, n'est jamais récupérée.
Est-ce qu'on peut, Mathieu Plane, revenir en arrière sur l'historique qu'on peut avoir, celui des Gilets jaunes? Là aussi, ça a dit quoi, en fait? Parce qu'on est dans une période un peu similaire. Après, ça s'est poursuivi beaucoup plus longtemps, mais novembre, ça y était.
Il y a une estimation qui tournait autour de 0,1 point de PIB sur le dernier trimestre. Au fond, les résultats macroéconomiques, c'est pareil. Hein. On a 0,4 point de PIB de croissance au dernier trimestre. La consommation, finalement, a été un peu plus robuste, même que ce qu'on pouvait anticiper. Après, il y a des effets sectoriels, par exemple sur la fréquentation touristique. On a vu des effets forts. Mais après, ça reste quand même très concentré sur les secteurs. On voit que ça a été sur les grandes agglos. Et pareil, quand vous faites vos courses de Noël, effectivement, ça va perturber sur beaucoup de week-ends. Mais il y a la possibilité de différer un certain nombre d'achats. Et puis, il y a surtout le fait que, en fait, au niveau macroéconomique, il peut y avoir des effets de part de marché. Typiquement, le commerce en ligne peut prendre sur le commerce de proximité. Ça ne veut pas dire que les gens ne dépensent pas, mais dépensent différemment. Où vous allez effectivement réorganiser un certain nombre de choses. Après, moi, ce qui me semble, hein, c'est que les effets macro, on peut les avoir, mais de façon différente. C'est-à-dire que c'est plutôt l'incertitude qui est générée. Et d'ailleurs, on le voit là en ce moment assez clairement.
Il y a une
par les mouvements et les tensions, et peut-être on reviendra dessus, qui fait que les gens ont tendance à consommer moins et à épargner plus. Dans un climat d'incertitude. Et ça, pour le coup, on voit des effets macro plus étalés sur les secteurs dans leur ensemble.
Il y a une question dans ce sens-là qui dit, est-ce qu'il y a un effet moral, un effet bien-être, autant qu'un effet économique, et est-ce que ça joue réellement?
Alors, une fois de plus, je ne veux pas minimiser les commerçants qui ont vécu les samedis difficiles suite à certains mouvements de gilets jaunes, et donc eux ont vu des pertes importantes, mais macroéconomiquement ça reste quand même assez limité. Par contre, ce qu'on voit, Et ça, c'était assez intéressant, c'est qu'au moment du déclenchement du mouvement des jaunes, il y a un indicateur de confiance des ménages, qui est réalisé par l'INSEE, qui s'est effondré comme lors d'une crise financière. Alors même que c'est au moment où il y a des mesures fiscales de soutien au pouvoir d'achat, la baisse de la taxe d'habitation, baisse de cotisation. Et donc on a eu une déconnexion totale entre le ressenti et en fait la réalité macroéconomique. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les mesures fiscales de soutien au pouvoir d'achat, elles se sont surtout transformées dans de l'épargne, une forme de prêt de précaution. Donc en fait, les résultats sur la consommation ont été décevants, surtout parce que il y a eu une cette incertitude conduit les ménages à épargner en disant « je ne sais pas comment sera fait demain ». Et donc aujourd'hui, les baisses de fiscalité, bah, je vais les mettre de côté pour prévenir les risques à venir. Et ça, pour le coup, vous avez des effets macro qui sont nets.
Et sur un mouvement comme celui qu'on vit en ce moment, sur un mouvement de retraite, est-ce que l'effet peut être un peu similaire? Parce qu'au fond, quand je vous écoute, on se dit « attention, moi j'ai peur pour ma retraite, donc je me mets à capitaliser ». Ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est moins anxiogène, on va dire, et que du coup, on a moins cet effet-là?
Alors, une fois de plus, on pourra évaluer tout ça après coup, mais ce qu'on voit, c'est que depuis la fin 2018, on a un niveau d'épargne qui est anormalement élevé. Et donc une consommation qui est moins dynamique que ce que n'importe quel modèle pourrait vous donner. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le mouvement... Alors, il y a eu la réforme de l'assurance chômage aussi, qui fait que, éventuellement, on peut dire que le risque, si vous tombez au chômage, c'est d'être moins bien indemnisé, donc d'épargner plus. Et là, sur les retraites, il y a cette question. C'est de dire, je ne sais pas comment on va se faire cette réforme, quelle va être ma retraite future. Je ne sais pas si finalement les baisses de fiscalité, de taxes d'habitation ou de cotisation, finalement, est-ce qu'on ne va pas me les reprendre quelque part sur les économies à faire sur les retraites? Et donc dans le mouvement, effectivement psychologique ou en tout cas de comportement des ménages, oui, ça joue. Mais je pense que c'est même pas du tout négligeable.
Alain Griset?
Ben c'est là où le macro rejoint le micro, puisque l'économie dans son ensemble a réagi beaucoup par rapport au comportement, au moral. On dit bien quand il y a du moral, les consommateurs ont un acte plus positif. Et c'est évident qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de facteurs qui viennent d'être cités qui font qu'on voit bien une morosité, une ambiance qui n'est pas favorable à l'activité économique. Alors, on a souvent une petite exception pour Noël, pour Nouvel An.
Ouais.
Parce que même en difficulté, les Français, on veut faire la fête.
Mais j'allais vous demander à l'inverse, au fond, si les mouvements sociaux n'étaient pas plus forts dans ces périodes-là, parce qu'effectivement, on sait qu'il va y avoir un gros pic de consommation et on est très effrayé à l'idée de ne pas être capable à la fois de subvenir, d'acheter. Et aussi, on se dit, c'est une période un peu compliquée, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va sortir.
Bon, alors, le hasard des dates de 95 et aujourd'hui peut nous laisser penser ça, mais bon, je pense pas. Je pense
95,
pas que
début de gilet jaune. Cette fois-ci, on a l'impression que les mois de décembre, en général, sont compliqués.
S'il n'y avait pas eu la date de la réforme des retraites, il y aurait eu particulièrement quelque chose cette année. Non, je pense au contraire. Les Français, même quand ils ont une année particulièrement difficile, ils attachent une attention particulière à faire la fête. Et donc à consommer bien, mieux et beaucoup pendant ces fêtes. Et naturellement, cette période qui est propice à l'activité économique, si elle est perturbée, c'est très impactant pour ceux qui sont concernés directement.
Deux questions en une, vous l'avez déjà un petit peu évoqué. Il y a celle de Frédéric qui est commerçant à Dinan et malgré une progression de 20% de son chiffre d'affaires en 2018, tout a dégringolé, nous dit-il, en novembre 2018. J'ai été contraint de fermer. Il dit, pour moi, les gilets jaunes à ce moment-là ont favorisé le commerce en ligne. En tout cas, je l'ai vu dans ma ville. Et on a cette question d'Héloïse aussi qui est à Saint-Palais qui dit, y a-t-il réellement un boom sur les ventes par internet? Sommes-nous capables de dire s'il est réellement dû aux mouvements sociaux ou simplement à l'ère du temps qui fait que de toute façon les courses en ligne sont devenues plus importantes?
Je pense
Est-ce que l'un a accéléré l'autre pour nous, en tout cas dans notre économie en France ou pas?
Non, mais il y a une question de pratique, de mode qui font qu'il y a une tendance à l'évolution sur ce mode d'achat avec aussi un vrai sujet sur la fiscalité, sur les règles applicables. On voit bien qu'il y a là, pour l'instant, il y a quelques jours, là, une étude sur la TVA qui démontrait que les sites en ligne ne payaient pas les TVA et s'arrangeaient. Et donc, il y a un impact sûrement que les consommateurs, dans un premier réflexe, disent « je vais gagner financièrement à aller là », sans toujours se rendre compte des conséquences futures, après, sur les impôts, et sur le chômage et autres. Donc, il y a ce phénomène sûrement de mode, de facilitation, quand il y a la grève, qui a un impact et qui est contradictoire avec l'envie des Français, parce que les gilets jaunes dans leur manifestation disaient il y a une fracture territoriale. Ben, s'il n'y a plus d'activité sur le territoire, la fracture sera encore plus grande. Donc il faut regarder ça avec beaucoup de prudence et attirer l'attention des consommateurs sur le fait que cet achat par internet a des conséquences à un moment donné qu'il va aussi payer.
Mathieu Plane, là-dessus?
Oui, effectivement, les tendances du commerce en ligne sont à la hausse. C'est toute la difficulté, c'est justement d'identifier
la cause.
Ce qui est de l'ordre de la tendance naturelle et la cause propre qui serait liée à ça. Je pense dans le commerce en ligne, dans les périodes de grève, il y a quand même aussi le problème des livraisons qui jouent défavorablement pour le coup en commerce en ligne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr, typiquement, si vous commandez un certain nombre de biens sur Internet, d'être sûr d'être livré, par exemple, pour Noël. Donc, c'est pas toujours forcément favorable.
Tiens, nous avons cette question qui vient de Rachid et qui dit qu'il n'y a pas vraiment une question. Il est à Bordeaux, Rachid, et c'est intéressant. Il dit « Je voudrais simplement intervenir pour dire que le but d'une grève est de rappeler aussi que ce sont les travailleurs qui produisent des richesses. » C'est toujours important peut-être de mettre le doigt là-dessus, en fait, et de s'en rappeler.
Oui. Alors ça, c'est évident. C'est d'ailleurs pourquoi il y a un rapport de force qui s'instaure en général dans ce type de négociation. C'est effectivement... On voit que l'activité reste produite quand même avant tout par des hommes.
Et c'est la question de Marc que je cherchais pour aller dans ce sens, qui dit, moi ce qui m'interpelle et ce qui me fait d'ailleurs aussi beaucoup rire, dit-il, c'est que habituellement les agents de la SNCF et autres salariés du public sont traités de feignants inutiles, alors que lorsqu'ils se mettent en grève, ça paralyse l'économie, ça gêne tout le monde. Les parents sont obligés de se payer des nounous, les gens de prendre des voitures, il y a des bouchons, les commerçants pleurent car personne ne vient acheter, les poubelles s'entassent, etc., etc. Comme quoi, une bonne grève, ça montre aussi l'utilité de beaucoup de professions et que chacun a besoin également du travail de l'autre. Voilà cette remarque, on va dire. Alain Griset, je vous la laisse à méditer de notre ami Marc.
Il n'est pas question de mettre en cause l'utilité de la SNCF ou de la RATP. Ce qu'on peut s'interroger, c'est la qualité du service public et du service rendu au public. Mais c'est autre chose. Et en tout cas, les activités que le DP représente mettent en avant l'être humain, l'homme et la femme, qui sont essentiels dans nos entreprises. Donc naturellement, on ne va pas contester l'importance de la personne dans l'activité économique.
Leïla de Tours, Mathieu Plan nous dit « Les grèves sont excellentes pour une économie alternative. Elles vont permettre aux citoyens d'apprendre à se passer du superflu qui pousse l'humanité vers le gouffre. Et elles peuvent permettre un avenir un peu plus résilient. » Est-ce que ça joue ou pas du tout, genre de choses?
Ça joue, c'est ça certainement, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, autour de ça, c'est la réorganisation des entreprises. On voit, et d'ailleurs elles l'ont anticipé plutôt pas mal au début de la grève, notamment jeudi, et la question de tout ce qui peut se développer autour du télétravail, quand c'est la possibilité, bien sûr, le commerce de détail pose d'autres problèmes. Mais on voit que dans beaucoup d'activités de service, il y a cette possibilité notamment de travailler à distance, qui peut avoir un lien aussi avec éventuellement des économies d'énergie, parce que effectivement vous déplacez pas, vous consommez moins. Là, en revanche, les grèves, c'est aussi une substitution qu'on peut voir, c'est que beaucoup de gens vont prendre plutôt leur voiture ou un véhicule polluant au détriment de transports en commun qui sont moins polluants.
Mais est-ce qu'on
donc l'un dans l'autre, c'est pas du tout.
La question que je me pose, c'est si on change réellement à ces occasions-là, les habitudes en fait, ou si au fond, toutes les choses reviennent dans l'ordre.
Les habitudes reviennent vite.
C'est ça, tout ça passe extrêmement vite. Adèle nous dit ceci: je soutiens les grévistes, mais je maintiens qu'il serait plus spectaculaire de faire rouler tous les trains gratuitement plutôt que d'essayer de paralyser ce qui rapporte de l'argent à la France, c'est-à-dire le carburant, le tabac, les jeux, les gains, par exemple. Donc perturber tout ça. Si les gens prennent leur voiture car ils n'ont pas de train, ils consomment plus de carburant, augmentent les revenus du pays, etc. Je suis sûr que la grève rapporte à nos gouvernements, à nos gouvernants qui se frottent les mains. En termes de masse salariale, ça rapporte d'une certaine façon, puisqu'on ne paye pas les jours de grève, théoriquement. Sinon, est-ce que d'une certaine façon, ça rapporte?
Non, ça ne peut pas rapporter. Enfin, là, ça devient assez compliqué pour... Il y a des secteurs qui peuvent en bénéficier éventuellement, mais globalement, on ne peut pas dire que ça génère de l'activité. En tout cas, on peut pas le voir comme ça. C'est vrai que des choses qui seraient beaucoup plus bloquantes seraient, par exemple, effectivement, si vous avez le blocage des raffineries, là, rapidement, se posera la question
de l'approvisionnement,
etc. Et là, il y aurait, à mon avis, des choses qui seraient beaucoup plus compliquées. Là, c'est vraiment une question d'organisation différente qui va toucher certains secteurs, plutôt le tourisme, plutôt le commerce de proximité. Et donc voilà, il y a pas de, on peut pas dire que ce soit, on n'est pas dans une phase de blocage global du pays. C'est-à-dire que ça, pour voir vraiment des effets macro, il faudrait que ce soit un blocage avec de la problème d'approvisionnement, problème effectivement sur l'essence et la possibilité de circuler librement. Là, on voit bien que je pense que l'impact, il est beaucoup plus envisagé sur une question de bien-être. Effectivement, les journées sont difficiles, plutôt qu'un effet très fort sur l'activité.
Clara Dosser, c'est peut-être pour vous. Alain Grisé nous demande si la grève peut perturber les circuits courts, donc y compris sur une période assez restreinte, les circuits courts, l'approvisionnement des produits locaux, notamment sur le marché. Je vous pose la question parce que j'ai cru voir que Rungis avait fait des stocks, par exemple. Alors non pas des stocks pour un mois et demi, mais juste pour s'éviter effectivement trop d'aller-retour. Est-ce qu'il peut y avoir un impact? Il arrive à partir de combien de temps il arrive cet impact-là, en fait?
Mais justement, le sujet qu'on évoque depuis tout à l'heure, les conséquences sont mesurables en fonction de la durée. D'ailleurs, c'est comme les comportements. Si ça dure 2-3 jours, chacun s'adapte, trouve une solution. Si on est déjà presque à une semaine, si on va 15 jours, 3 semaines, on peut plus s'adapter. Ça devient quelque chose qui modifie en profondeur les comportements. Et on voit que ça peut avoir des impacts, pas seulement d'ailleurs sur l'alimentaire. On voit nos collègues du bâtiment qui commencent à avoir des difficultés d'approvisionnement pour les matériaux, de pouvoir accéder aux chantiers. Et donc, un petit peu à la fois, la durée a des conséquences sur de multiples facteurs. Et effectivement, les circuits courts, dans un premier temps, ne sont pas touchés. Mais au bout de 3, 4, 5 jours, peuvent l'être également, au niveau de l'approvisionnement.
Mathieu Plane, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, non, parce que c'est intéressant, cet effet des stocks. C'est-à-dire que, effectivement, quand la grève est prévue, vous pouvez avoir des entreprises effectivement qui s'organisent et qui anticipent et donc qui vont stocker, ce qui fait potentiellement de l'activité en plus à un moment donné, mais qui en fera en moins. On le voit par exemple, alors c'est pas comparable, mais quand même il y a un peu des éléments similaires, par exemple avec la question du Brexit. On a vu qu'à chaque fois qu'on arrivait à une date échéance, effectivement, il y a des phénomènes de stockage en vue de prévision de difficultés. Donc, ça veut dire qu'il faut bien intégrer dans les événements économiques aussi ces anticipations qui peuvent avoir lieu. Et en fait, les choses arrivent vraiment et deviennent difficiles quand vous ne pouvez plus anticiper et plus vous organiser.
Étienne Etamoulin, voici ce qu'il nous dit. Les grévistes, l'idée c'est de savoir si au-delà de l'impact immédiat, il peut y avoir un impact à un peu plus long terme. Les grévistes risquent forcément d'avoir des salaires diminués. Cela pourrait-il impacter leur consommation sur les mois à venir? Est-ce que c'est des choses, par exemple, je repense à 95, 3 semaines, ça a dû peser beaucoup. Ça se sent après ça ou pas?
Ça se sent, mais ça reste quand même sur fait un pourcentage de salariés qui reste faible. Donc c'est pareil, sur la masse salariale globale de l'économie française, vous avez quelque chose qui est quand même pratiquement marginal. Donc là-dessus, c'est pas le facteur clé, même si effectivement ça fait moins de distribution de salaire, donc un peu moins de consommation. Mais
ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'en général les retraits des jours de grève sont progressifs, c'est-à-dire c'est pas un mois avec subitement juste une semaine de travail lorsqu'il y a eu 3 semaines.
Exactement, et puis ça dépend qui fait la grève, c'est-à-dire combien de temps et quel est le mouvement de grève, quel est le pourcentage de la population salariée qui fait grève. Si vous le me rapportez aujourd'hui sur l'ensemble des salariés en France, je pense que effectivement ça reste quand même assez faible.
Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de questions dans ce sens-là. Il y en a déjà eu une tout à l'heure. Evelyne de La Rochelle nous dit que peut-être la grève serait une bonne chose pour l'environnement parce qu'elle permettra de baisser la consommation effrénée de la période de Noël. Alain Grisé, il y a quelque chose dans l'air qui dit ça. On a eu ce même débat au moment du Black Friday. On a eu toutes ces interrogations sur notre consommation effrénée. Et voilà qu'on se dit que peut-être que la grève peut aussi y participer.
Oui, il y a une tendance, surtout dans les très jeunes générations, les plus jeunes, de dire qu'il faut évoluer dans les modes de consommation, pour consommer mieux, surtout pour consommer des produits dont on connaît l'origine, la traçabilité. Mais néanmoins, moi, je pense quand même que particulièrement pour les fêtes de Noël et fêtes de fin d'année, ces éléments-là passent par-dessus bord et que l'envie de faire en famille, de faire la fête, prend le dessus et que les bonnes intentions sont quand même particulièrement oubliées pendant cette période.
Oui, moi je suis assez d'accord. Je pense que effectivement, c'est faire évoluer les mentalités autour des types de consommation, de comment savoir l'origine des produits, effectivement quel est leur contenu en carbone ou des choses comme ça. Je crois pas que la contrainte aujourd'hui soit le déterminant numéro un de la sensibilisation à ces questions-là. Ou alors, ça serait assez étonnant. Donc, du coup, ce qui reste quand même avant tout pour l'ensemble des ménages français, c'est quand même avant tout une contrainte budgétaire dans leur type dans le mode de consommation. La grève, je pense pas que ce soit l'élément déclencheur de la sensibilisation aux problèmes environnementaux.
Benoît nous dit qu'il habite dans la Sarthe et qu'il est gréviste aujourd'hui. Il dit « J'ai manifesté au Mans et j'en ai profité pour acheter quelques cadeaux pour manger dans un petit restaurant. Je crois que je n'aurais certainement pas fait si j'avais été travailler. » Donc l'impact peut aussi être positif. Y a-t-il, Alain Grisé, un effet induit dans l'autre sens? Il y a aussi sur le hashtag Le Telson, un prof tout à l'heure qui posait la même question et qui disait « Après tout, pendant ces périodes-là, on est plus dehors, on est là, on manifeste. » Est-ce que ça joue aussi? Est-ce que ça compense les commerces de proximité parfois? Je pense au commerce de bouche particulièrement.
La réponse est non, clairement. C'est l'exception qui confirme la règle. Et naturellement, moi, pour avoir hier encore avoir des contacts avec les restaurateurs, les hôteliers sur Paris, quand on est à 50-60% de chiffre d'affaires en moins, c'est pas parce qu'un gréviste de temps en temps va prendre un plat que ça va rééquilibrer. Donc là, sans aucun doute, c'est non.
Les conséquences, selon vous, sont plus importantes dans quel secteur? Est-ce qu'on s'inquiète plus quand on est président de l'Union des entreprises de proximité? Est-ce qu'on s'inquiète plus pour les petits commerces de centre-ville? Est-ce qu'on s'inquiète plus pour l'hôtellerie? Est-ce qu'on s'inquiète plus pour tout ce qui peut être lié au tourisme et qui fera qu'il peut y avoir un certain nombre d'annulations? Votre inquiétude, elle se situe où à ce stade-là, encore une fois, si les choses se poursuivent?
Nous, on a mesuré là en une semaine, très clairement, un secteur qui a un impact, alors d'abord sur Paris, très clairement, hein, il y a une différence considérable entre Paris et la province. Sur Paris, c'est l'hôtellerie et la restauration. Il y a une cascade d'annulations au niveau des hôtels très important, et au niveau de la restauration, il y a une perte de chiffre d'affaires sur Paris qui est assez considérable. Donc là, très clairement, aujourd'hui, les premiers impactés, c'est eux. Nous, notre crainte, c'est qu'il puisse y avoir, si ça durait, un impact très fort également sur toutes les activités de l'artisanat alimentaire, les bouchers, les charcutiers, les pâtissiers et les boulangers, et aussi, de façon peut-être un peu moins forte dans un premier temps, les artisans du bâtiment. Mais tout de suite, il est évident qu'on a déjà mesuré, et là, il y aura une perte sèche, hôtellerie, restauration et tourisme en général.
Thierry nous appelle Mathieu Plane et nous dit « J'habite en Provence et depuis quelques jours, les discussions sont centralisées dans les discussions et aussi les encombrements. D'ailleurs, sont centralisées dans Paris et dans sa banlieue. Nous, à Nantes, on subit finalement très peu de grèves, à part quelques problèmes avec le carburant. Ça représente quoi, la région parisienne, quand la région parisienne est perturbée, pour ne pas dire bloquée, dans une période comme ça? En termes de PIB, ça représente quoi, la région parisienne?
Je ne vais pas dire une bêtise, que ça presse une colle. Je crois que c'est à peu près 20% du PIB.
J'allais dire 30, mais j'ai eu peur de dire une bêtise. Peut-être que vous avez, donc peut-être du coup, 25, je suis pas sûr.
On va trancher entre deux.
Je me souviens plus, je l'ai lu, et du coup, je me suis dit, je vais le demander à Mathieu Plane.
Non, voilà, mais non, je savais pas exactement. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a aussi un prisme là-dessus. Hein, c'est-à-dire que, finalement, c'est plutôt les grandes agglos qui sont touchées, en particulier Paris et la région Île-de-France. Et qui peut y avoir une forme de déconnexion aussi hein, sur ces difficultés par rapport à d'autres régions ou des villes de taille moyenne pour lesquelles en fait subissent aucun encombrement et qui font partie aussi qui participent à l'activité globale du pays. Donc c'est vrai que c'est important aussi de voir si c'est l'ensemble du territoire ou pas qui est impacté ou juste extrêmement centralisé sur quelques agglomérations.
Mais au fond, est-ce qu'on sait, parce que vous faisiez la comparaison tout à l'heure avec 95 et avec donc c'était 3 semaines de grève, est-ce qu'on sait de toute façon à partir de quel moment on commence réellement à s'inquiéter sur ces questions-là?
Je pense qu'après il y a les enjeux politiques hein, qui sont derrière. Sur la question économique, elle est à partir du moment où on voit que les entreprises arrivent plus à s'approvisionner correctement, notamment sur l'industrie. On voit que là aujourd'hui il y a quand même une différence par rapport à 95. On est plus aussi sur une activité de service. Et quand on parle des grandes agglomérations comme Paris, on n'a pas beaucoup d'industrie, on a beaucoup de services. Donc c'est quand même des choses qui sont aussi assez différentes. Effectivement, c'est pas du tout linéaire. C'est-à-dire qu'une fois de plus, une grève de quelques jours qui est anticipée a quasiment aucun impact par rapport à une grève qui va être dure, généralisée et qui dure dans le temps. Donc c'est vrai que le rapport de force peut s'installer là, mais aussi les grévistes perdent en salaire. Donc on voit bien que ça devient extrêmement compliqué pour tout le monde, mais il y a un moment, bien sûr, où les choses peuvent avoir des effets qui sont significatifs, mais il faut quand même rentrer sur quelque chose d'assez général et qui dure dans le temps.
Deux questions sur l'attractivité française, précisément. Vous vouliez ajouter quelque chose, pardon.
Dire simplement que les hommes et les femmes qui aujourd'hui passent des heures et des heures pour essayer de trouver une solution pour se déplacer. D'abord, faut avoir une pensée pour eux parce que pour beaucoup, ils vont au travail, c'est pas très facile. Mais ensuite, ça peut aussi avoir un aspect sur leur comportement, sur leur morale dans cette période de fête. Alors toujours pareil, hein, ça sera micro au niveau des conséquences, mais ça peut avoir des impacts assez importants sur les différents comportements de ceux qui doivent consommer.
Voici une question de Mathilde donc sur l'attractivité française qui nous dit: connaît-on l'influence de la grève sur l'attractivité de la France pour les investissements internationaux sur le long terme, évidemment, précise-t-elle. Question du même acabit de Véronique qui est à Metz: est-ce qu'un mouvement de longue durée peut avoir un impact sur l'investissement des entreprises en France?
Je pense qu'on est vu comme un pays, de toute façon, où effectivement les mouvements sociaux peuvent être plus élevés qu'ailleurs.
On nous a beaucoup dit récemment que l'attractivité de la France était revenue pour...
Oui, alors voilà, ce qui est paradoxal, c'est par exemple, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui est quand même un mouvement inédit, je pense, dont on a parlé dans le monde entier. Et pourtant, effectivement, en termes de classement d'attractivité, la France s'est plutôt améliorée. Donc je pense que les gros investissements lourds se font sur des raisons qui sont un peu plus structurelles que ça, qui est... Voilà, la France est connue pour avoir régulièrement quand même un certain nombre de mouvements sociaux, et donc c'est pas une inconnue pour les investisseurs étrangers. Je pense que le mouvement Gilets jaunes aurait peut-être même plus perturbé les investisseurs parce que on était face à une inconnue qui était beaucoup moins organisée, plus généralisée. Et dire voilà, en fait il y a une instabilité politique et sociale qui peut être dangereuse. Là on est sur quand même un rapport de force sur une réforme des retraites, on voit à peu près où le gouvernement veut aller, on voit à peu près la contestation, on n'est pas totalement déstabilisé.
Et notamment, vous l'avez évoqué, on a anticipé, on parlait des stocks à Rungis, on parlait aussi de ceux qui ont pu s'organiser sur le télétravail. Ça nous ramène à cette question de Maxime qui est dans le Var, qui dit: les conflits sociaux aujourd'hui sont largement anticipés par les agents économiques qui s'organisent en amont, notamment, mais pas seulement, grâce au télétravail. Et les consommateurs, eux, parviennent, en tout cas parfois, sauf peut-être en période de Noël, à reporter leurs achats. Est-ce que ça change tout, au fond, quand on est, enfin, cette date du 5 décembre, elle est connue depuis très très longtemps. Est-ce que ça change tout dans la physionomie d'un mouvement quand on, et Dieu sait qu'on en a connu en France, donc on sait exactement comment les choses vont se passer, on sait qu'il va y avoir ce moment de bras de fer, on sait qu'il va y avoir un début de négociation, que chacun tirera d'un côté ou de l'autre, que peut-être les cortèges vont finir par être un peu plus clairsemés. Au fond, est-ce qu'on n'est pas là dans quelque chose de très typique? Contrairement à ce qui avait pu se passer l'année dernière, par exemple.
Dans les premiers jours, dans les tout premiers jours, on a bien vu qu'à la limite, beaucoup de personnes s'étaient bien organisées, avaient prévu. Là, quand ça commence à aller au-delà d'une semaine, la prévision n'est plus aussi efficace. Et bon, en fonction du fait que ça va ou pas encore durer, les conséquences pourront être plus importantes. Mais je pense qu'effectivement, le fait de connaître le début d'un mouvement, ça permet d'anticiper et peut-être de freiner un petit peu les conséquences négatives.
Mathieu Panon se connaît, connaît notre fonctionnement aussi.
On va pas dire que c'est quasiment classique, mais voilà, à chaque réforme des retraites, il y a des mouvements. On voit là qu'il y a un certain nombre d'incertitudes assez élevées. On voit que le Premier ministre va parler, on ne sait pas exactement quels sont les enjeux. Autour de ça, on les connaît les enjeux, je veux dire, mais on ne sait pas quels sont les points d'arbitrage encore qui vont sortir. Mais on n'est pas dans l'inconnu. Une fois de plus, les Gilets jaunes, c'était vraiment l'inconnu. Mmh. C'était quelque chose qui, d'ailleurs, je pense, a marqué beaucoup plus le gouvernement que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, si le gouvernement peut lâcher sur un certain nombre de choses, je pense que c'est plus sur des questions politiques que sur l'impact économique, en réalité. Sauf si vraiment, ça se durcit de façon très forte. Mais si ça se durcit très fort, ça veut dire qu'il y a aussi un mécontentement fort. Et donc, on renvoie plutôt à une question politique.
Il y a Sandrine qui nous envoie cette question. C'est plutôt pour vous, Alain Griset, qui dit: bonjour, je suis commerçante dans un petit centre-ville et je n'ai jamais aussi bien travaillé qu'au moment des Gilets jaunes parce que les gens n'osaient plus prendre leur voiture pour se rendre en hyper et donc en périphérie à cause des ronds-points et donc ils consommaient dans le centre.
Oui, il y a eu ces phénomènes-là également. C'est arrivé. On a d'ailleurs vu la semaine dernière, moi j'ai des collègues...
Voilà un effet vertueux, presque inédit en fait.
Mais au bout du compte, là on est aussi sur des éléments qui ne viennent pas compenser les pertes globales. Donc là, dans le micro, on a encore un effet encore plus micro qui fait qu'on a quelques-uns de nos collègues qui ont eu, des moments donnés, une augmentation du chiffre d'affaires, mais globalement, ça ne peut pas être considéré comme positif.
Voici un mail de Robert qui est inquiet, qui nous dit: la mobilisation sociale pourrait-il avoir un autre impact sur l'économie, un aspect très négatif? Ma fille a commencé un CDI en région parisienne le lundi 2 décembre et elle ne peut plus se rendre à son travail désormais. Elle est désemparée, angoissée, car elle craint évidemment de le perdre dans les prochains jours. Je voudrais pas vous piéger, vous emmener sur des terrains qui ne sont pas les vôtres les uns les autres, mais est-ce que ce risque existe ou pas?
Mais voilà, il y a toujours des cas spécifiques.
On est en période d'essai là, par exemple, pour une jeune fille comme ça.
Peut-être que l'employeur va intégrer le fait que si elle peut pas se rendre à son travail, c'est pas de sa faute.
Je me demandais si ça s'intégrait, si c'était intégrable.
C'était intégrable.
Si
la question, c'est est-ce que ça peut jouer sur les intentions d'embauche? Fois de plus, on n'est pas dans un mouvement inconnu. Donc, je ne crois pas que la décision d'embaucher repose sur le fait de savoir s'il y a une grève ou pas contre la retraite.
Non, vous savez, depuis quelques mois, le motif de nos collègues, c'est de dire on ne trouve pas toujours les salariés dont on a besoin. Donc, si l'employeur concerné a trouvé cette personne tout à fait correspondant à son besoin, il sera très heureux de l'accueillir dès qu'elle pourra revenir.
Voilà, bah écoutez, c'est déjà une manière de rassurer notre auditeur, et c'est tant mieux. Jean-Patrick nous demande si la grève de la SNCF a un impact sur le transport de marchandises par fret ferroviaire. Oui ou non?
Alors, ça, en tout cas, historiquement, oui, il y a eu des effets comme ça, par exemple, en 95, qui a profité justement au transport routier, par exemple.
Mais là, est-ce que le fret fonctionne, par exemple, alors, en ce moment? Vous voyez, c'est une colle, parce que je n'en sais rien. J'avoue que j'en sais rien. Donc, voilà.
Bonne question, j'ai pas la réponse.
Donc en 95, en tout cas,
95, non, mais c'est pour ça qu'il y a des effets de substitution, alors que si on doit faire juste des petits éléments macroéconomiques comme ça, pour voir qu'en fait, effectivement, il y a des secteurs qui perdent beaucoup, et notamment le transport de voyageurs, en termes d'activité. C'était la moitié des effets, en fait, sur la valeur ajoutée. Mais à terre de ça, il y a effectivement le transport routier, qui avait vu justement des gains à ce moment-là, parce que effectivement dans l'approvisionnement de marchandises, etc., il n'y avait plus de frais de ferroviaire, et donc le transport routier avait plutôt vu son activité augmenter à ce moment-là.
Écoutez ce que nous dit Claudine, qui nous dit « Est-ce que le gouvernement ne choisit pas, elle parle de 95 comme de maintenant d'ailleurs, les mois de novembre et décembre en général pour faire ce genre d'annonce, en sachant que les impacts des grèves sont très difficiles à tenir dans une période de fête à venir ?» Est-ce que c'est un argument politique pour rassurer notre amie Claudine ou pas?
Non, parce que bon, Jean-Paul Delevoye avait mis son rapport en juillet. Bon, le gouvernement aurait pu, s'il le souhaitait, se prononcer à cette période-là. Bon, ça n'a pas été son choix. Dans un premier temps, si j'ai bien entendu, il avait prévu de présenter un projet de loi au mois de mars-avril prochain. Et le calendrier s'est accéléré parce qu'un mouvement a été créé. Je pense que les organisations syndicales qui souhaitaient faire un mouvement ont choisi particulièrement cette date du 5 décembre parce que c'était un repère pour eux par rapport à 95.
Tiens, j'ai une réponse à notre question tout à l'heure. On vient de me dire qu'il y a 5 trains de fret qui circulent par jour au lieu de 250.
Ah oui,
donc effectivement, ça s'appelle un impact. Ouais. Là, il n'y a pas à dire. Ces grèves, nous dit Alain, auront forcément un impact. Elles l'ont aujourd'hui. Mais si les retraites sont à terme augmentées, l'impact sur l'économie sera meilleur et bénéfique à l'économie. C'est évidemment des choses qui sont extrêmement difficiles.
Là, par exemple, sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est typiquement ce qu'on a vu, c'est que à part des petits effets sectoriels qu'on peut avoir, hein, mais qui ont existé, notamment liés à la fréquentation touristique, l'hôtellerie, notamment les centres et les commerces de proximité. C'est vrai qu'à côté de ça, il y a eu 17 milliards qui ont été injectés dans l'économie à travers les mesures fiscales qui ont des effets macroéconomiques qui sont pour le coup significatifs au niveau macroéconomique.
Des effets macro, mais pas des effets de perception et
alors,
du tout.
Voilà.
Ce qui est toujours évidemment le paradoxe, et je ne sais pas du coup si ça a eu des effets micro. En revanche, donc dans l'impact du post-gilet jaune au moment où les premières mesures sont tombées.
Ben globalement, on a remarqué pendant 3 trimestres là une activité économique qui s'est redressée à peu près correctement. Donc peut-être on peut en déduire que ça a eu cet effet-là.
Eh bien écoutez, à suivre, merci beaucoup, merci vraiment de votre participation au téléphone. On y reviendra demain, forcément on y reviendra après les annonces du Premier ministre. Portez-vous bien, il est 20h.